Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'agité du local. Nous sommes aujourd'hui le lundi 26 juin. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle émission autour de l'actualité en Mayenne où on a pas mal de sujets aussi à aborder ce midi. On va entre autres parler de ces séances de cinéma en plein air proposées par Atmosphère 53 depuis quelques années déjà qui se poursuivent et qui surtout recommencent à partir de ce vendredi 30 juin avec plus d'une trentaine de projections tout au long de l'été, des projections gratuites un petit peu partout en Mayenne, soit dans des lieux patrimoniaux, soit en tout cas sur les places des villages. L'idée c'est aussi de reprendre goût à aller dans les salles de cinéma, même si là on parle bien de cinéma en plein air, de pouvoir avoir le plaisir de voir un film aussi. On reste dans les animations de cet été, mais là pour le coup avec un focus sur celles proposées à Château-Gontier, avec quasiment une proposition toutes les semaines, proposition gratuite, que ce soit du cirque, de la musique ou d'autres événements qui seront organisés tout au long de cet été. On entendra d'ailleurs l'un des groupes programmés dans le cadre de ces animations d'été sur le territoire de Château-Gontier sur Mayenne. Et puis on va également parler du lancement d'un nouveau groupe, un groupe local des Shifters, donc qui est une association en lien avec The Shift Project, lancée par Jean-Marc Jancovici, avec pour grand objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais pas seulement, en tout cas réduire notre dépendance aux énergies fossiles. On va voir comment, pourquoi justement ce Mayennais a choisi de se lancer dans ce groupe, dans cette création et dans cette dynamique de manière plus générale. Et puis dans une deuxième partie d'émission, on retrouvera une chronique, et aujourd'hui lundi, c'est la chronique de la Ligue des droits de l'homme en Mayenne, la dernière de la saison, et oui, où on va parler vidéosurveillance et même en l'occurrence, selon le chroniqueur, vidéosurveillance de masse. Ça, ce sera plutôt dans une deuxième partie d'émission. Mais vous le savez, pour commencer, on va faire un rapide point sur l'actualité avec un nouvel accident qui a fait deux victimes sur les routes mayennaises ce week-end. Deux jeunes âgés de 23 ans sont décédés dans cet accident qui s'est produit samedi vers 4h du matin sur la départementale 121 à Gèvres dans le nord Mayenne vers Saint-Pierre-des-Nies. Leur voiture a percuté une pile de ponts. Et puis un autre accident a eu lieu un peu plus tard dans la journée de samedi en milieu d'après-midi. Une collision entre une moto et une voiture à Ernée et le conducteur de la moto a été grièvement blessé et transporté en urgence à l'hôpital d'Angers. Le conducteur de la voiture, lui, a été transporté à l'hôpital de Mayenne. Des risques de coupure d'eau dans le centre-ville de Laval à cause des travaux de renouvellement des canalisations d'eau potable cette semaine autour de la place du 11 novembre et plus globalement du centre-ville, avec donc de possibles coupures d'eau ou en tout cas des manques de pression pendant ces travaux, à savoir donc cette nuit, la nuit donc du lundi 26 au mardi 27 et la nuit suivante du mardi 27 au mercredi 28 de 21h à 6h du matin. Et ça a été révélé vendredi dernier, vendredi après-midi, la flamme olympique passera dans 7 lieux en Mayenne, et oui, puisque le relais de la flamme passera dans le département le mercredi 29 mai 2024, avec donc deux convois en parallèle. Et cette étape, je vous le disais, à Château-Gontier, au musée Robert Tatin à Caussée-le-Vivien, à Sainte-Suzanne, mais aussi plutôt au nord du département, au belvédère du Mont des Avaloirs, à Pré-en-Paille, à la petite cité de caractère de Chaillan. Et puis, donc ces deux convois se rejoindront pour un final à l'espace Mayenne à Laval. Une très bonne fréquentation ce week-end pour le festival Un Singe en été, mais pas de chiffres justement du nombre de festivaliers. La 9e édition du festival s'est achevée hier à Mayenne, et même si selon les organisateurs ça a été une des meilleures éditions depuis les débuts, ils préfèrent ne pas donner de chiffres de fréquentation à l'image de leurs homologues du festival Au Foin de la Rue à Saint-Denis-de-Gâtine pour, je cite, « éviter une course aux chiffres démentielle ». Pas moins de 32 projections en plein air gratuites sur tout le département. Et oui, c'est le retour du cinéma en plein air proposé par l'association Atmosphère 53. Du 30 juin de ce vendredi donc jusqu'au 8 septembre, 22 films seront projetés dans 27 communes avec un seul critère, qu'ils soient sortis depuis au moins un an. La projection a lieu sur les places des villages ou dans des lieux du patrimoine, les grottes de Sauges ou le château de Sainte-Suzanne pour ne citer que, pour donner ou redonner l'envie à tous et toutes d'aller voir des films, explique Zoé Prigent, médiatrice culturelle chez Atmosphère 53.
Ça va vraiment dans l'idée de proposer des séances au plus grand nombre de personnes et de rendre accessible le cinéma un maximum. Et donc, voilà, donc on est au cœur des villages pour être au plus près des habitants. On propose des films tout public, très familiaux. Et on est attaché à la gratuité aussi pour cette raison, pour qu'il n'y ait pas de questions financières qui puissent poser problème aux spectateurs. Programmation familiale mais néanmoins diverse, donc on a vraiment des films d'animation récents comme Les Mignons 2, mais aussi des comédies françaises plus ciblées adultes et qu'on cherche toujours à être très qualitative aussi, à répondre un peu à notre ligne éditoriale habituelle, et bien sûr aussi du cinéma culte. Donc là on est très content par exemple de proposer Peau d'âne de Jacques Demy dans la cour du château de Sainte-Suzanne, donc un film magique de contes de fées qui est projeté devant un château, on peut pas rêver mieux. Et puis aussi le cinéma culte de Spielberg avec E.T. sera montré à Laval, à la maison de quartier Laval Nord, donc ça va être super. Oui, c'est assez fréquent, on a très souvent au moins une buvette et une offre de restauration, parfois aussi des jeux en bois par exemple, très souvent aussi ça va être des concerts, et puis on propose même là sur quelques dates une animation ludique un peu inédite puisqu'on a fait l'acquisition tout juste cette année d'une mash-up box qui permet de faire de la manipulation d'images, du détournement d'images, et c'est une initiation au montage super ludique et adaptée à tous les âges. L'idée, c'est de un peu redonner envie, puisque les salles de cinéma connaissent une petite baisse de fréquentation depuis le Covid, même si ça reprend doucement. Donc moi, je profite souvent aussi de ces séances-là pour mettre en lumière le travail des salles les plus proches et dire aux gens, vous avez vu le cinéma, c'est trop bien, alors n'hésitez pas à aller aussi dans les salles.
Ce cycle de cinéma en plein air s'ouvre donc ce vendredi 30 juin avec le film Les Vedettes de Jonathan Barré avec le Palmachot, c'est à Saint-Hilaire-du-Maine. N'hésitez pas d'ailleurs à prévoir un plaid, un pique-nique et pourquoi pas des transats pour être bien installé. Sachez qu'en moyenne, chaque séance a accueilli 160 spectateurs ou spectatrices l'an dernier. Et après la Chalibaude ce week-end, dont garde le rythme à Château-Gontier cet été, avec de nombreuses autres animations gratuites et en l'occurrence quasiment un rendez-vous par semaine jusqu'à la rentrée scolaire. Avec deux grands temps forts, les 5 spectacles Quel Cirque au Théâtre des Ursulines, mais aussi 3 vendredis d'été à Azé au Théâtre de Verdure, des rendez-vous là plutôt musicaux. Le premier a lieu le vendredi 7 juillet, précise Coralie Boucher. Elle est responsable du service vie associative et culturelle de la ville et du pays de Château-Gontier.
On est sur une soirée plutôt axée famille avec un premier concert pour le jeune public, donc un concert pop fun. Et un deuxième groupe, donc The Yokel, qui est plutôt pareil, pop-folk aussi. Donc on est dans une soirée plutôt pop-folk dédiée à toute la famille. Sur le 21 juillet, la particularité sur cette soirée-là, c'est qu'on commencera un peu plus tôt, car on a la chorale L'Interlude Enchanté d'Aurigné qui viendra nous présenter son travail. Donc c'est une chorale intergénérationnelle qui propose des reprises plutôt actuelles de variétés françaises. Donc c'est assez dynamique, assez sympa. Ensuite, on enchaînera la soirée avec le groupe The High Stack, qui est un groupe lavallois, plutôt folk rock. Et ensuite, le groupe Brin de Zinc, donc qui est plutôt aussi de la chanson française, mais axé rock aussi. Et puis ensuite, la dernière soirée, le 11 août, donc avec le collectif Team Peace, qui est du reggae, un groupe lavallois. Et le groupe Madjé, donc qui est plutôt sur du hip-hop. Donc là, on est sur une soirée un peu musique du monde, qui viendra peut-être donner un peu plus l'envie de bouger au sein du public. Quel Cirque, ça démarre dès juillet, donc avec le 11 juillet, la compagnie One Shot. On est sur de l'acrobatie, machinois, manipulation d'objets, musique live avec des haches, avec une guitare. Enfin, c'est vraiment un spectacle familial, mais comme toute la programmation Quel Cirque finalement, puisqu'on est vraiment sur des spectacles qui s'ouvrent au plus grand nombre et qui se veulent familial. Donc à chaque fois, il y a plusieurs lectures et c'est accessible à tous. Le 25 juillet, on a la compagnie Cadavreski qui était déjà venue à Château-Gontier présenter son premier spectacle et qui vient cette fois-ci nous présenter son deuxième, donc qui s'appelle Les Madeleines de Poulpe, qui est un spectacle qui se passe plutôt dans les airs avec beaucoup d'acrobaties, de sangles aériennes et de la musique live toujours. Et on terminera la saison le 29 août avec le spectacle Frigo Opus 2 de la compagnie Dis bonjour à la dame, qui est un spectacle de clown poétique, vraiment humoristique aussi. C'est un spectacle coup de cœur qui pourra plaire à toute la famille, puisqu'il y a vraiment plusieurs niveaux de lecture, plusieurs références aussi sympathiques pour tous, accessibles pour tous.
Et sans oublier une date Quel Cirque un peu spéciale, puisque celle-ci n'aura pas lieu un mardi, mais un vendredi, en l'occurrence le 4 août à partir de 17h, avec le groupe de cumbia La Chuchuca, le marché de producteurs et donc le traditionnel spectacle à 21h de la compagnie Handsome Feet pour un spectacle de jonglage et d'équilibriste. Vous pouvez retrouver bien sûr le programme complet en ligne sur chateaugontier-sur-mayenne.fr. Et puis justement, à l'heure de la pause musicale, eh bien je vous propose d'écouter un des groupes qui sera proposé dans le cadre de ces vendredis d'été. Ce sont en plus des Mayennais, The Haystacks. On écoute tout de suite Dance dans l'agité du local.
Waiting so long, we've been on our own. This way empty, there's blue cats moving, silence everywhere. A few of my men so down, liars on my TV. We're popping up the air. Know you're about to, know you're about to, know you're about to, know you're about to. Energy is born. Let's talk about the after. Princes are coming from the streets. People are coming down the streets. Veins of the city pulsating, pushing people back to life.
Évidemment, Dance avec The Haystacks, ça ce sera le 21 juillet au Théâtre de Verdure à Azé à partir de 19h, avec également la chorale intergénérationnelle et Brin de Zinc. Donc évidemment, ce qu'on vient d'écouter, je vous le disais, c'était The Haystacks dans l'agité du local sur l'autre radio. Et on va passer à l'interview de ce lundi. Avec les Shifters, il veut agir pour limiter son empreinte carbone et plus globalement diminuer l'impact de son activité sur la planète. L'Evronais Émilien Leroy a créé un groupe local des Shifters en Mayenne, déclinaison départementale du laboratoire d'idées The Shift Project, lancé par Jean-Marc Jancovici il y a quelques années, avec comme objectif de réduire sa dépendance aux énergies fossiles, une priorité pour le gérant du camping d'Evron qui compte bien rassembler tous les Mayennais et toutes les Mayennaises autour de cette idée.
Bonjour, Émilien Leroy, j'ai 36 ans et je suis le directeur du camping des loisirs à Évron en Mayenne.
Et donc, vous organisez une réunion d'ici quelques jours, ce sera le 28 juin, ici à Évron, au Trait d'Union, pour lancer un groupe local des Shifters. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que c'est et surtout, comment est venue cette idée, ce projet-là sur la table ?
Alors, les Shifters est une association de bénévoles qui est là pour soutenir un laboratoire d'IT qui s'appelle le Shift Project, qui est notamment chapeauté par Jean-Marc Jancovici, un ingénieur qu'on voit beaucoup à la télé, qui nous parle beaucoup de carbone et d'autres choses. Et les Shifters sont présents sur toute la France via des groupes locaux. Et je voulais personnellement m'investir dans ce domaine, personnellement et de manière bénévole. Il n'existait pas de groupe local en Mayenne. Donc j'ai fait la démarche auprès des Shifters nationales pour leur dire que j'étais intéressé pour essayer de créer une dynamique en Mayenne. Parce que je pense que beaucoup de gens sont intéressés pour amener leur pierre à l'édifice personnellement et avoir peut-être aussi un rôle dans la société dans cette démarche-là qui me semble importante. Et ça me semblait peut-être l'occasion du coup de créer un groupe. Et voilà, ce groupe se lance. Le groupe est déjà créé et la dynamique se lance officiellement le 28 juin à 19h au Trait d'Union, 32 bis rue de Montaigu à Évron.
Effectivement, c'est toutes les infos pratiques pour venir sur place lors de la réunion. À quel moment vous vous êtes dit là j'ai envie de m'investir encore plus pour contrer tous les effets du réchauffement climatique ou en tout cas d'essayer justement, comme vous le disiez, d'apporter votre pierre à l'édifice vous aussi?
Alors, il y a trois raisons principales. Je dirais que la première est la guerre en Ukraine et qui a mis en évidence quand même notre dépendance importante et énorme au gaz et au pétrole, et notamment celui russe. Alors, nous et aussi nos chers copains allemands. Et je l'ai vécu de plein fouet dans le cadre de mon entreprise avec l'augmentation abyssale des prix de l'énergie. Et voilà, c'est poser la question de pourquoi on est aussi dépendant. Et puis, en tirant un petit peu la ficelle et en regardant ce qui s'est passé en 2022 avec les feux dans les Landes et les feux en Bretagne, j'ai creusé un peu le sujet et en essayant d'être le plus objectif possible, je me suis rendu compte qu'on avait encore beaucoup de chemin à faire pour préserver une planète, j'espère, vivable pour les futures générations.
De là, vous vous êtes dit, il faut faire quelque chose. Pourquoi ce groupe local ? Parce que c'est vrai qu'il y a déjà d'autres associations, alors pas comme celle-là, hein, mais d'autres associations qui œuvrent par rapport aux déchets, par exemple, ou par rapport à la préservation de la biodiversité. Pourquoi plus spécifiquement avoir voulu créer ce groupe local ici ?
Bah, déjà, j'aime bien la notion de leader et notamment via Monsieur Jancovici, qui est un personnage qui plaît à beaucoup de gens et qui me plaît aussi personnellement. J'aime bien l'approche assez rationnelle, scientifique. Et du coup, d'avoir un maillage national au niveau de l'association me semble important pour pouvoir échanger avec des gens d'autres régions, de pouvoir se rencontrer. Et en creusant un petit peu sur le site des Shifters, l'approche me plaisait bien, tout simplement.
Donc très concrètement, ça veut dire que quelles seront les missions de ce groupe local et des personnes qui en feront partie ? Qu'est-ce que vous allez faire au quotidien ? Quels projets seront portés ?
Je ne sais pas. L'idée, c'est avant tout de pouvoir réunir toutes les personnes, et j'insiste bien, toutes les personnes qui sont prêtes à donner de leur temps bénévolement. Ça peut aller de « je suis disponible un après-midi par an » à je suis disponible 6 heures par semaine parce que j'ai du temps et que je veux m'investir dans ce domaine-là. Donc c'est vraiment, vraiment ouvert à tout le monde avec des champs de compétences qui peuvent être vraiment, vraiment différents. Et les Shifters peuvent aider et soutenir le Shift Project sur des missions nationales et après mettre en place aussi des projets au niveau local. Si je prends mon secteur d'activité qui est l'hôtellerie de plein air, le camping plus précisément, l'idée c'est comment faire pour attirer plus de gens à venir avec des transports décarbonés, type le train. On a la chance à Évron d'avoir une gare. Comment je fais pour passer de 0% de voyageurs qui viennent en train sur mon camping à 10 ou 20 ou 30% dans les années à venir? Ça, c'est un projet concret, donc ça nécessite de comment travailler avec la gare, quels sont les moyens à mettre en place, location de voiture, voiture électrique, vélo. Il faut mesurer tout ça, il faut quantifier tout ça, donc ça demande un petit peu de temps. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais voilà, il y a vraiment, vraiment, je pense, plein de choses à faire dans ce domaine-là. Et donc, toutes les forces vives mayennaises sont invitées le 28 juin.
Dans l'exemple que vous citiez, donc là, on parle vraiment des transports, mais ce n'est pas le seul domaine d'activité où, justement, pourront être proposés des idées, des projets à mener.
Oui, tout à fait. Ça, on va vraiment, je pense, ouvrir différentes missions dans différents domaines. Déjà, il faut se rencontrer, se réunir, présenter l'association, se structurer. Est-ce que demain, on va être 10 ou est-ce qu'on va être 100 ? La démarche ne sera pas la même. Donc, on part d'une feuille blanche. On verra jusqu'où ça nous mène. Après, je suis confiant parce qu'il existe quand même déjà une vingtaine de shifters, si je ne me trompe pas, en France et à l'étranger. Il y a des shifters, il y a des groupes locaux en Belgique, aux États-Unis, il me semble, en Angleterre. Donc, l'idée, c'est de commencer la dynamique et après, on sera soutenu et accompagné par nos collègues au niveau national. Du moins, j'y compte.
Il y a aussi ça, en effet, ce que vous disiez qui est important, cette notion de réseau aussi et de d'union, c'est un peu le principe d'une association au sens large, mais en tout cas pour pouvoir porter les projets et que ce soit efficace aussi par rapport à faire des actions seules chez soi, qui, pour pas nier du tout ça, mais en tout cas que ce soit peut-être aussi plus efficace et qu'on avance plus vite.
Partir de zéro me paraissait compliqué. Et pourquoi partir de zéro quand il existe quelque chose qui est déjà bien établi avec une vision aussi médiatique et aussi un leader qui j'ai envie de dire, a accès aux politiques, parce que c'est quelque chose qui est important aujourd'hui, c'est les citoyens qui votent. Et si demain, nous, en tant que citoyens, on n'est pas force de proposition auprès des politiques pour dire, voilà, on veut que le monde, et plus particulièrement que la France, change pour faire notre travail, notre part du travail, il me semble que ce côté-là est important d'avoir accès, via le leader, entre guillemets, de l'association, Jean-Marc Jancovici, d'avoir accès un petit peu aux politiques notamment.
Aux politiques, évidemment, au niveau national, voire plus, mais on va dire au niveau national. Et là, vous aussi, vous avez eu des contacts avec les politiques au niveau local, justement, au niveau de la Mayenne. Quel écho est-ce que vous avez eu lorsque vous leur avez présenté votre démarche ?
L'idée, c'était, avant de me lancer, c'était d'avoir leur aval, ou du moins savoir quelle était leur position sur le domaine. Je ne me voyais pas travailler concrètement sur des projets pour ensuite savoir que les projets allaient être mis à la poubelle. Ce n'est pas le but. Je pense qu'on a un travail à faire sur l'ensemble du territoire mayennais. J'avais la chance et j'ai la chance de connaître le maire d'Evron, gérant le camping d'Evron. Et il me semblait important d'avoir son aval sur la mise en place de ce projet-là, parce que sans les élus, ça me paraissait compliqué d'avancer.
Est-ce qu'il y a... Alors, évidemment, hein, c'est le lancement du groupe, donc vous ne savez pas du tout quels vont être les premiers projets à émerger. C'est juste si vous voyez, si vous pensez à des exemples de projets qui pourraient être menés ou des sujets où pour vous, là, vous vous dites, là, il y a quelque chose à faire, peut-être là aussi, pour être vraiment dans des exemples un petit peu concrets.
C'est vrai que moi, je peux parler particulièrement de mon secteur d'activité qui est le tourisme. Donc, pour l'instant, je me focalise personnellement. Je réfléchis facilement à ce type de projet parce que je vois les besoins. Après, je pense qu'il faudra aussi s'appuyer sur les besoins des élus. Typiquement, j'ai eu la chance d'avoir au téléphone le directeur de la transition écologique, excusez-moi, au niveau mayennais, la directrice de Mayenne Tourisme. Donc, il va y avoir des besoins au niveau du territoire et au niveau de différents secteurs. Et je pense que l'idée, ça peut être de partir sur, de connaître les besoins et essayer de trouver des solutions à ces besoins-là. Souvent, les élus ont des idées, mais après les mettre en place, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça demande aussi une approche scientifique, objective. Et puis ça, il faut avoir le temps pour le faire, quoi. Et les élus n'ont pas forcément le temps pour le faire parce qu'ils ont déjà un emploi du temps, il me semble, du moins pour certains, très très chargé.
Finalement, je voulais savoir plus personnellement pourquoi pour vous c'était si important de mettre ça en place et même au quotidien, d'essayer à tout prix de faire quelque chose pour justement qu'il y ait un impact le moins négatif possible pour les prochaines années sur la planète.
J'y ai beaucoup réfléchi et je pense qu'on sera, j'ai 36 ans, je pense qu'on sera la première génération pourront rendre des comptes, entre guillemets, aux futures générations. C'est-à-dire que demain, si on me dit « papa, papy, tonton, toi, qu'est-ce que tu as fait quand tu étais jeune pour faire en sorte que la planète aille bien ?» Parce qu'on voit bien que là, en ce moment, c'est un peu compliqué. Je veux être capable de dire que j'ai fait quelque chose. Avant mes 36 ans, j'ai fait des choses, comme beaucoup de gens, du tri, faire attention de ne pas rouler trop vite, etc. Mais en creusant un peu le sujet, je me rends compte que c'est largement pas suffisant Pour donner un ordre d'idée, en français, on est à peu près à 10 tonnes de carbone à l'année. On devrait être à 2 dans quelques années. Donc, il faut diminuer notre empreinte par 5, en moyenne, hein, bien sûr. Donc, voilà, je veux pouvoir dire aux générations futures que je me suis un petit peu intéressé au sujet et j'ai essayé de contribuer à faire en sorte que les choses n'aillent pas trop mal dans quelques dizaines d'années.
Est-ce que, je ne sais pas si c'est votre cas aussi, mais le fait d'agir, justement, ça permet aussi de ne pas trop se laisser envahir par l'éco-anxiété et le fait de se dire « mais en fait, on ne va jamais y arriver
». Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que cette notion d'éco-anxiété, on entend beaucoup parler. Et c'est vrai que ça peut faire peur d'imaginer ce que pourrait être le futur. Et au lieu d'être passif, bah, l'idée, c'est d'être dans une dynamique, de se bouger et puis de concrètement mettre les mains dans le cambouis. Et puis, et on verra où ça nous mènera. Mais voilà, l'idée, c'est de la motivation, avoir des gens qui sont prêts à nous filer un petit coup de main. Et puis, voilà.
Juste une dernière question, si certains ou certaines sont intéressés mais ne peuvent pas être présents à la réunion du 28 juin, est-ce qu'il y a un moyen de vous contacter ou en tout cas de dire je suis intéressé par la suite ?
Alors la première solution pour me trouver, c'est que je suis gérant du camping d'Evron, donc c'est appeler au camping d'Evron, même si c'est pas, on va dire, la meilleure solution pour moi, parce qu'il va falloir que je fasse le tri entre les gens qui veulent faire du shift et les gens qui veulent venir au camping. Sinon, voilà, le plus simple, c'est d'envoyer un mail à mayenne@theshifter.org, donc theshifters.org, et de m'envoyer un petit mail, vos coordonnées, et puis quand j'aurai quelques minutes, je me permettrai de vous rappeler, essayer de structurer la chose. Donc même si les gens ne sont pas là le 28 juin, pas de souci, mayenne@theshifter.org.
Et donc cette première réunion qui est prévue ce mercredi à 19h au centre social Le Trait d'Union à Évron, première réunion du groupe local des Shifters en Mayenne. On va passer à la chronique de la Ligue des droits de l'homme en Mayenne. D'ici quelques minutes, le temps de faire une pause musicale avec Poulo and Pan, avec leur titre Arc-en-ciel. Et oui, vous êtes bien sur l'autre radio dans l'agité du local. Nous sommes le lundi 28 juin. On vient d'écouter Polo & Pan avec Arc-en-Ciel. Et on poursuit cette émission, évidemment, autour de l'actualité en Mayenne avec une chronique, en l'occurrence la dernière de la saison. Et oui, c'est un argument de plus pour l'écouter bien attentivement, la chronique de la Ligue des droits de l'homme en Mayenne, où on va parler aujourd'hui vidéosurveillance de masse. Bonjour Loïc Bedouet.
Bonjour.
Et donc c'est vous qui assurez cette dernière chronique de la saison pour la Ligue des droits de l'homme en Mayenne, avec le choix, comme souvent d'ailleurs, d'un sujet on ne peut plus d'actualité.
Oui, effectivement, nous assistons depuis maintenant quelques années à une formidable accélération de la technologie et de sa mise en service dans nombre de domaines. Aujourd'hui, force est de constater que ces nouvelles formes de technologie, en particulier l'intelligence artificielle, ouvre un champ jusqu'alors inimaginable dans des domaines tels que la recherche, la médecine, la communication. Mais la puissance de ces outils exige un débat démocratique quant à leur utilisation au regard de l'éthique et des choix de société qu'ils imposent. Il en est ainsi de leur utilisation dans le domaine de la sécurité. En effet, au nom de la sécurité collective, et sans qu'aucune étude ne vienne corroborer les préconisations des uns ou des autres, nous assistons à un glissement dangereux vers la surveillance de masse, percutant par là même notre droit à la liberté de chacun, pourtant inscrite dans notre Constitution. De la mise en place de vidéosurveillance et de l'installation de caméras dans les rues des villes à la reconnaissance faciale d'un individu dans une foule, c'est toute une gamme de process qui se développe à l'insu de chacun et qui demanderait cependant un débat contradictoire dans notre société. Ainsi, le projet de loi Orientation et programmation du ministère de la Justice 2023-2027 a été présenté au Sénat. Dans ce projet, il est créé un nouvel outil d'enquête permettant d'activer à distance des appareils électroniques d'une personne à son insu pour obtenir sa géolocalisation en temps réel ou capter des images et des sons. En clair, il s'agira par exemple de géolocaliser en temps réel, à partir de son système informatique, d'écouter et enregistrer tout ce qui se dit au micro d'un téléphone, même sans appel en cours, ou encore d'activer une caméra d'un ordinateur pour fermer ce qui est dans le champ de l'objectif, même si elle n'est pas allumée par son propriétaire. Bref, c'est transformer les objets connectés en mouchards, et telle est la surenchère sécuritaire du gouvernement. Autre exemple. Sous couvert d'expérimentation, la France va être le premier pays européen à installer de la vidéosurveillance algorithmique lors des Jeux Olympiques de 2024. Ainsi, les images qui seront captées par les caméras de surveillance placées sur les sites olympiques, dans les transports publics ou encore sur des drones seront traitées par des algorithmes développés pour détecter des mouvements jugés à risque. Or, si l'État assure le développement du traitement ainsi autorisé, il en confie le développement à un tiers à qui il reviendra de définir le fonctionnement de ces algorithmes. Ces entreprises privées pourront alors se retrancher derrière le droit de la propriété intellectuelle ou du respect des secrets d'affaires pour refuser tout contrôle et notamment par la CNIL. Ces différentes mesures mises en place à bas bruit sans véritable débat au niveau national, interviennent alors que le Parlement européen a opté le 14 juin dernier un projet de règlement qui ambitionne d'encadrer l'usage de l'intelligence artificielle. Le but de ce règlement est en effet de fixer des règles générales communes à l'ensemble des États membres afin d'encadrer les technologies faisant appel à l'intelligence artificielle comme la biométrie, la notation automatisée, comme ça se fait actuellement en Chine, ou l'analyse des comportements ou et encore algorithmiques prédictifs, comme c'est prévu en France. La France se met donc dès maintenant en position de confrontation avec l'Union européenne et se range dans le camp des pays où les politiques sécuritaires l'emportent sur celles de la liberté individuelle et collective. Nul doute du risque qu'encourrait notre société si de telles armes technologiques et législatives tombaient dans les mains d'un gouvernement de type totalitaire. Le danger est bien présent de voir des individus, les associations, les partis politiques soumis à la surveillance. Si ces nouvelles technologies offrent indéniablement des perspectives de réels progrès dans bien des domaines, leur application dans celui de la sécurité exige transparence et débat. L'ensemble des associations, organisations syndicales, partis politiques et prises de liberté doivent se saisir de cette question afin que les garde-fous indispensables soient mis en place.
Merci beaucoup pour cette ultime chronique, chronique que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site www.lautreradio.fr. Puisque oui, c'est la fin de notre émission L'Agité du Local pour ce lundi. Restez bien à l'écoute de l'autre radio, hein, puisqu'à 19h, il y aura votre émission, comme tous les lundis, Solénoïde. Ce sera suivi à 20h de la discothèque des membres du conseil d'administration de l'autre association. Et oui, discothèque collective ce soir. Nous, on revient demain et je vous souhaite évidemment une très belle journée.